Jean-Bernard Leroy, je recommence donc les exposés, mes commentaires sur saint Jean, avec ceux pour l'église de Laodicée, la septième et dernière église à laquelle, auquel s'adresse saint Jean. Je vous prie de m'excuser de ne le faire qu'avec un retard de plusieurs jours, mais étant les fêtes de Noël, que plusieurs événements familiaux ont fait que je ne pouvais pas le faire avant. Je vous présente mes excuses à ce sujet. Voici quel est le texte de l'Apocalypse. Note encore ce que l'ange de l'église de Laodicée, ce que je dis à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable et fidèle, le principe de la création de Dieu. Je connais tes façons d'agir. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède, ni bouillant, ni froid, je vais te vomir. Puisque tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien, sans te rendre compte que tu es misérable, piteux, pauvre, aveugle et nu, je te conseille de m'acheter de l'or fin pour faire fortune, des manteaux blancs pour t'en draper et cacher ton indécence, et de longs gants pour toindre les yeux et voir clair. Pour moi, tout ce que j'aime, je les corrige et je les châtie. Courage donc et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre, si quelqu'un m'écoute la voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Du temps de saint Jean, Laodicée était une des villes les plus riches, vivant du commerce des draps et des bijoux. La ville était fière de l'or de ses banquiers, des colliers de ses oculistes et de ses draps de laine noire. Le messager se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est le Christ, dans l'intensité de son témoignage, fidèle et véritable, maître de toute la création. Celui qui porte la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Le Christ évangélisateur qui répand dans toutes les oreilles qui veulent bien la recevoir, la vérité sur le cœur de l'homme et sur sa vocation. Le message est sans nuance. Tu n'es ni froid ni brûlant, je vais te vomir. Tu dis je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien, sans te rendre compte que tu es misérable, piteux, pauvre, aveugle et nu. Je vais te vomir. Il est difficile d'aller plus loin dans le mépris du regard envers l'homme châtré du spirituel qui s'estime de ce fait satisfait de tout un ensemble de richesses qui engluent l'âme loin de Dieu. Benoît XVI le dit très bien dans ses derniers livres. Le drame, c'est la tentation du Christ. Tu seras tout puissant si tu te prosternes devant moi. L'homme ne se prosterne plus devant personne que devant lui-même. Il est riche. Il met toute sa force dans, et tout son espoir dans ses richesses qui ne sont que du vent finalement. Sur le plan spirituel, ces richesses sont puantes. Elles maintiennent l'âme dans une fausse sécurité, dans une tiédeur bien confortable, et finissent par étouffer tout élan affectif. On pense à cette brave dame qui disait en parlant du paradis « Je me contenterai volontiers d'un strapontin ». Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait comme il arrive souvent. Elle voulait l'amour au rabais, l'amour en solde. On comprend le dégoût du Christ À notre égard, il n'a guère lésiné sur le prix à payer. Le dernier film sur la passion en est un témoignage. La tiédeur, le contraire de l'amour n'est peut-être pas la haine, mais bien l'indifférence. La personne haïe obsède l'esprit, alors que la personne qui vous est indifférente n'existe même plus. Dans l'épisode de la tour de Babel, la Genèse note que Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes, car il en était absent. Chassé non pas par haine, mais par omission, il était mis entre parenthèses. Malheureusement, cette tiédeur nous guette à chaque pas. Le soin des affaires de ce monde nous accapare, légitimement certes, pour une part, mais en nous laissant trop souvent sans ressort en ce qui concerne le royaume de Dieu. Le devoir d'État ne devrait jamais aller contre les devoirs envers Dieu qui sont si bien résumés au début de chaque carême. Prière, aumône et amour du prochain. La tiédeur. On n'a plus le temps. De fait, on n'a plus le courage. On ne veut plus se donner la peine. Après tout, rien ne presse. On libère sa conscience en se donnant une pièce, en donnant une pièce ou en signant une pétition. Si la question est un peu trop délicate, par exemple l'avortement, on s'en remet à la pensée dominante, au sondage, et puis on évite d'y penser puisque le problème est maintenant réglé. C'est aussi une phrase entendue dans la bouche d'un catholique pratiquant qui lui non plus ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. La vie mondaine suffit à occuper toute une existence. La vie mondaine et les affaires, que ce soit les affaires bancaires, de succession ou autres, et à vous faire entrer dans une douce somnolence, d'autant plus redoutable que les fautes qu'elle entraîne sont celles auxquelles on pense le moins, les péchés par omission. On ne parle pas assez de l'importance du péché par omission, qui vous englue très vite. Au début, on pense qu'il s'agit d'une omission, par exemple pour la prière, la confession, l'offrande à un pauvre ou quelque bonne œuvre dans laquelle on s'est mis. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Puis quelque temps après, bof, ben tant pis, puis rien. Notre habit de vertu se déchire petit à petit, il tombe en poussière et on se retrouve nu, comme le dit si bien l'Apocalypse. Le péché par omission. C'est le mauvais riche de l'Évangile. Les mauvais riches de Lazare, ils ne faisaient rien de mal. Ils se contentaient de banqueter, ils ne savaient pas que Lazare était à ses pieds. Bon, mais ils ne savaient pas, mais ils ne lui faisaient rien de mal. Simplement, ils l'oubliaient. Aussi le messager insiste, réveille-toi, achète-moi de l'or fin pour faire fortune, des manteaux blancs pour t'en draper et cacher ton indécence. Courage et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est là où on voit la joie du fils repentant qui n'est pas rien, dans l'histoire de l'âme, dans le fils prodigue. Lorsqu'il entre dans les bras de son père, il se rejette. Il est effectivement nu. Après avoir brûlé ses richesses aux quatre vents, avoir ou fusé rien de mal. Il avait complètement omis ses devoirs envers tout le monde. Il se retrouve faible et nu. Et à ce moment-là, il se reprécipite dans les bras de son père, qui le reçoit en ouvrant les bras. C'est pour ça que le messager insiste. Réveille-toi. Achète-moi de l'or fin pour faire fortune. Courage et repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Bigre, quel honneur! Qui ne rêve d'un repas en tête à tête avec tel puissant de ce monde? Et là, c'est le Christ qui nous invite. Quel repas d'affaires, comme on dit. Que cette Eucharistie vécue dans la plénitude, c'est vraiment le moment de soigner sa robe nuptiale. Et la récompense est en proportion. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône, comme moi-même après ma victoire, c'est-à-dire après sa résurrection. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône. Donc, nous siégeons à côté du Christ si nous savons revenir à lui et le mettre à sa place, c'est-à-dire à la première. Le vainqueur est considéré comme son alter ego. Chacun devrait se dire au diable les richesses et les honneurs terrestres devant une telle perspective. Le don du Saint-Esprit correspondant est celui de la force. Le don de force est une vertu permanente que le Saint-Esprit communique à notre volonté pour vaincre les difficultés qui nous détourneraient de la pratique du bien. Et la béatitude est celle de ceux qui ont faim et soif de la justice, de la dette d'amour que nous avons envers notre Sauveur. Le péché capital à vaincre est bien celui de la paresse, qui nous incite à retarder sans cesse, à différer, à trouver quelques bonnes raisons pour maintenir le statu quo que l'on sait mauvais et que l'on pourrait changer. La paresse, c'est un péché terrible, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est faible, on est fatigué, on n'a pas le temps, en fait, on est paresseux. L'idéologie correspondante semble bien être celle de Sartre et son idéologie de la liberté absolue. Il aurait dit, j'ai peine à le croire, « Si Dieu existe, je ne suis pas libre. Or, je suis libre, donc Dieu n'existe pas. » Épouvantable sophisme. Quelle est donc sa liberté? Celle de ses appétits les plus bestiaux. L'homme de Sartre est libre de tout. Mais lorsque l'heure presse, il est bien content de trouver un urinoir pour l'éviter de faire pipi dans sa culotte. L'homme soi-disant libre est incapable de rester plus d'un mois sans manger, plus d'une semaine sans boire et plus d'une heure sans respirer. N'exagérons rien. Il dépend de beaucoup de choses. Sa nature ne lui est pas. C'est pas lui qui l'a faite. Sa nature lui a été donnée et confiée. L'homme est libre d'agir selon sa fantaisie au détriment de tous, disait Sartre. Et l'enfer, c'est les autres. Dans la mouvance de cette idéologie, nul n'a le droit de nous commander, nul n'a le devoir envers qui que ce soit. C'est l'anarchie, la loi du plus fort. Dans une de ses pièces, Les Mouches, Sartre fait dire à Oreste, qui symbolise les hommes, à l'adresse de Jupiter, qui symbolise Dieu, « Étrangère à moi-même, je le sais, hors nature, contre nature, sans excuse, sans autre secours qu'en moi, mais je ne reviendrai pas sous ta loi, je suis condamné à n'avoir d'autre loi que la mienne, car je suis un homme libre, Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin. » Voilà une assez bonne définition de l'enfer. Il est difficile d'aller plus loin dans le blasphème, l'orgueil et la révolte. Nous ne dirons jamais assez qu'il faut se révolter contre la révolte. La révolte ne mène à rien. La révolte, encore s'il y avait un Dieu éloigné et cruel, mais pour un Dieu qui est allé jusqu'à la croix, jusqu'à prendre notre place, jusqu'à souffrir et à mourir pour nous, c'est vraiment d'une injustice et c'est absolument scandaleux. Or, nous vivons actuellement dans cette atmosphère de révolte. L'Église de l'ange, le démon de l'Église de Laodicée règne absolument sur notre monde et c'est épouvantable. L'ange de Laodicée, lui, nous invite à avoir la force de refouler le prince des ténèbres et affirmer sa foi avec toutes les conséquences en nous répétant cette parole maintenant célèbre « N'ayez pas peur ». Naturellement, cela implique que toute notre conduite soit en rapport avec les hautes exigences de l'amour infini qui conduisent à rejeter sans nuance toutes les positions inacceptables de notre société dévoyée, en particulier sur le plan moral. Rester ferme et ne jamais partager avec l'ennemi. Au premier rang des saints invoqués, on pense à saint Ignace de Loyola qui s'est dressé contre tous les abandons, à sainte Marie-Madeleine qui, une fois saisie par l'amour du Christ, ne connut aucune crainte ni hésitation pour témoigner, fût-ce au risque d'être traitée de radoteuse par les apôtres. Le plus fort et le plus prudent fut cependant saint Joseph, qui assura pleinement et sans faiblir son rôle de protecteur du Verbe incarné. On peut aussi penser à saint Expédie, qui se dirigeait toujours droit au but. Et comme prière, on ne saurait trouver mieux que la prière scout. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Voilà, j'ai maintenant fini l'Odyssée, j'ai fini ce tour à l'école de l'Apocalypse. Il ne me reste plus maintenant que ça vous dire pour la fin. J'ai fini tous mes exposés. Nous sommes allés à l'église, dans l'Europe chrétienne. Nous avons vu les 10 commandements de Dieu, nous avons vu maintenant leur correspondant dans l'Apocalypse, dans le fond, apparemment, je n'ai plus rien à vous dire. Le mois prochain, je resterai encore une fois, je m'adresserai à vous encore une fois, pour parler des valeurs, de nos valeurs, de celles que nous défendons, et puis ensuite, je vais vous dire au revoir, ça fait plus de 3 ans que je suis avec vous, j'étais très heureux, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes discours. Et puis, de toute façon, actuellement, je vous souhaite une bonne année, en espérant que bientôt reviendra la période où nous pourrons parler de Dieu